France Culture.
Les pieds sur terre. Sonia Kronlund.
Aujourd'hui, on essaie de comprendre ce que ça peut vouloir dire qu'un climat incestuel. Une notion assez récente, parfois contestée, mais qui a l'avantage, si on peut dire, de nous aider à saisir d'un coup d'œil les contours flous de la question. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est une atmosphère délétère, une menace, un risque, mais lequel ? Il n'y a pas de passage à l'acte pénalement répréhensible, mais quelque chose qu'on ne sait pas nommer. Des blagues graveleuses peut-être, une forme de sexualité exhibée, des confidences intimes des parents sur leur propre sexualité, leur vie de couple. Et à l'inverse, une impossibilité pour les enfants d'avoir une véritable intimité, des portes ouvertes, de la nudité imposée, une certaine confusion des rôles et des places dans la famille. Le climat incestuel, c'est donc cette ambiance générale, ces comportements problématiques, une forme de harcèlement sexuel, mais au sein de la famille. La première fois que j'en ai entendu parler, c'est dans le podcast quand même assez fantastique de Charlotte Bien-Aimée, un podcast à soi sur Arte Radio. Je vous recommande vivement l'épisode entier qu'elle a consacré à cette question sous-titrée « Grandir sous la menace ». Un sujet important donc, peu documenté, difficile à cerner de par sa nature même, et qu'on aborde à notre tour sans certitude, en laissant parler celles et ceux qui en ont envie ou qui en éprouvent le besoin. Trois récits par Clémence Alezard.
Je m'appelle Elisabeth, j'ai 71 ans, je suis retraitée de l'éducation nationale. J'ai grandi dans un milieu socio-professionnel moyen, on va dire, avec un père qui a beaucoup travaillé, n'avait pas fait d'études, mais s'est formé en cours de carrière pour devenir directeur d'une petite société, et une mère au foyer. J'étais plutôt une enfant joyeuse, et dès que je trouver un contexte dans lequel je pouvais rire, eh ben, j'y plongeais et j'oubliais, mais vraiment, si je me remets dans la peau de cet enfant, j'oubliais ce que je vivais à la maison. C'était deux mondes, l'extérieur et l'intérieur. J'ai été élevée par des parents extrêmement strict, un père patriarche, hyper autoritaire. Mes deux parents sont des enfants de la guerre. En Alsace, donc région particulièrement touchée d'une manière particulière aussi par cette Deuxième Guerre mondiale, on leur devait obéissance, c'était dit, formulé comme ça. Et enfin, on a vécu dans la terreur. Je pense que je peux dire ça, oui. J'ai vécu toujours avec cette idée-là que d'être là avec nos parents, il y avait un risque et un risque grand. Notre père se masturbait devant nous, enfin, pas nu, mais avec la main dans son pantalon, alors qu'on était à quatre dans la pièce en train de regarder... la télé, je me souviens même d'une fois où il sort en vitesse et que c'était insupportable parce que nous, on devenait adolescentes. Une fois où je m'étais acheté, enfin, parce que nous, on a porté des chaussettes ou des sockets jusqu'à l'âge de 14 ans, mais quand on a eu le droit de porter, les collants n'existaient pas tout de suite, enfin pour moi. Mais très peu de temps après, il y a eu les collants, je m'en étais acheté des noirs, c'était la mode à ce moment-là. Donc je montrais à ma mère, voilà. Et lui, il venait regarder ça avec un regard qui me plaisait pas du tout. C'était du ressenti. Là, je me souviens pas de paroles qui accompagnaient, mais c'était du ressenti. J'avais dans ma chambre un paravent qui cachait un lavabo qu'il y avait dans ma chambre, et c'est là que je faisais ma toilette. Et il venait me voir par-dessus le paravent. Et un jour, je lui ai demandé de partir, il m'a répondu « J'ai le droit, je suis ton père ». Et il y avait toujours du mal-être, quoi, du malaise. du mal-être. Rien n'était fluide. Personnellement, j'étais toujours sur le qui-vive. J'étais à l'aise nulle part dans cette maison. Ma mère était tout le temps dépressive, pouvait rester des journées à pleurer. Elle a pu me prendre à témoin de son insatisfaction sexuelle, elle le disait comme ça. Et moi, je comprenais pas bien. Mais je sentais que c'était hyper gênant et que ça n'avait pas lieu d'être. Je pense que ma mère avait peut-être une relation particulière avec moi, que j'ai comprise aussi. Peut-être qu'on pourrait qualifier de fusionnelle. Et qu'elle me voulait complice de ce qu'elle vivait, qu'elle ne supportait pas, qui la rendait malheureuse. Peut-être un peu confidente à certains moments. Je me suis mariée à même pas 20 ans. Un peu plus d'un an après, j'étais enceinte. J'ai eu un mari alcoolique, violent surtout dans les mots. J'ai appris 10 ans après la séparation que notre fils avait été battu pendant toute son enfance et moi je ne l'ai pas vu. Et il y a tellement de choses que je n'ai pas vues non plus. Les filles, il était extrêmement vulgaire. Il citait un sketch des Inconnus en appelant l'aînée des filles Ingrid et en lui disant « Tu baises ? Mon Dieu, c'est juste horrible, j'ai cru que je tombais dans les pommes. » Donc je changeais de sujet et presque, je pense, je faisais comme si ça n'avait pas existé. C'était tellement, enfin ça sortait de ma mémoire, enfin c'est des phénomènes assez... Et la plus jeune a pu relater qu'il l'a prise un jour sur les genoux et qu'elle a senti un grand dégoût et un grand malaise. Il y a eu un climat, évidemment qu'il y avait déjà des choses qui me froissaient dès le début, où j'ai pas su dire non, j'ai pas su dire ça, je n'en veux pas. Voilà, parce que je suis tellement formatée dans donner la priorité à l'homme, on va dire un truc comme ça. Et c'est toujours la grosse question qui d'ailleurs est d'actualité là tout récemment, comment une femme qui vit aux côtés d'un homme qui fait ou qui a X ou Y comportement peut ne pas voir. Et effectivement, on peut ne pas voir. Parce que je crois que c'est aussi une conséquence d'une enfance maltraitée. Quand on est à l'aube de former soi-même une famille, on s'accroche tellement fort au fait que nous, on va en faire une normale. On va en créer une normale. Et donc, ça fait qu'il y a des comportements qu'on ne peut pas voir, qu'on minimise simplement... Même si on a des idées en disant « Mon Dieu, qu'est-ce qu'il fait là ?» C'est quand même... On se culpabilise soi, mais qu'est-ce que tu es en train d'imaginer de ton mari ? Et que c'est juste affreux d'imaginer, mais que non, tout va voler en éclats. Donc, on s'accroche aux moments qui sont positifs. Pendant un certain temps, quand même, il y en a eu. Et on aura une famille normale coûte que coûte, quoi, pendant tout un temps.
Je m'appelle Émilie, j'ai 46 ans, je vis sur le plateau du Vercors et je travaille dans l'accompagnement et le conseil des personnes. J'ai vécu mon enfance dans la Loire, dans une famille d'un milieu social plutôt classe moyenne, on dira, avec une sœur qui est un peu plus âgée que moi. J'ai longtemps qualifié mon enfance de... heureuse, parce que effectivement j'avais un toit au-dessus de la tête, de la nourriture dans mon assiette, on avait des loisirs, on allait à l'école, J'ai le souvenir d'avoir des parents bien pris par leur quotidien, un père très impliqué dans son travail et une mère qui faisait tout à la maison et qui était souvent très stressée. On était un peu un prolongement de nos parents. C'est-à-dire que j'ai longtemps compris que mon rôle, le rôle qui était attendu, c'était de leur faire plaisir. Donc moi, j'étais le rayon de soleil, mon petit rayon de soleil. Et du coup, bah, j'avais vraiment pris à cœur ce rôle. Donc souriante, espiègle, drôle, serviable, toujours de bonne humeur. Et en fait, l'enfant n'avait pas le droit vraiment de s'exprimer, d'exprimer des besoins et d'être contre aussi, d'exprimer un désaccord. Donc le leitmotiv, c'était « ne réponds pas ». Alors, dans le contexte, ce qui a à noter, c'est que quand j'avais 3 ans, ma mère a perdu sa mère, donc ma grand-mère maternelle, brutalement. Et j'ai eu l'impression, moi, à ce moment-là, de perdre ma mère. Elle s'est vraiment sentie complètement orpheline. Et j'ai essayé de combler ce vide affectif chez elle. Et très tôt, je me suis dit, bon, ben, je suis celle qui apporte aux autres. Ma mère avait souvent le dos qui lui grattait. Ben, je devais lui gratter le dos sur la peau. Mais j'aimais pas ça. Et par la suite, il y a plein de choses comme ça dans ma vie qui me semblaient déconnectées avec tout fait concret qui générait du dégoût. Et après coup, j'ai fait le lien avec des choses qui avaient été imposées et très récurrentes où j'avais pas le choix. Mon père est tombé en grande dépression quand j'avais 14 ans environ et je suis devenue sa confidente. Et tout ce qu'il me confiait était extrêmement intime. Il parlait de son mal-être, il parlait de ses cauchemars, il parlait de ses envies de suicide, qu'il ne disait qu'à moi. Donc moi, ben, je me disais que je serais responsable de sa mort si jamais il passait à l'acte. Mais je n'avais pas du tout la présence d'esprit à cet âge-là d'alerter ma mère ou d'en parler à qui que ce soit. Je gardais tout ça pour moi. Plus tard, dans la même lignée de toutes ces confidences, ça a pu être de me confier ses difficultés sexuelles avec ma mère à cause de ses traitements, de me parler de ses envies, de ses pulsions. Enfin voilà, de choses qui sont totalement hors jeu et qu'on ne partage pas à son enfant. Quand j'ai été adolescente, mon père faisait régulièrement des commentaires sur mes seins, qui étaient petits, et qu'il appelait tétine de chat. Et c'est vraiment pas... Ça me gênait beaucoup, en fait. À la fois, ben, il y a un côté qui dit, ah ben, il m'a remarqué, il parle de moi, donc on est touché. Et à la fois, on n'a pas envie que... J'avais pas envie que mon père commente mes seins. Voilà. Ce qui m'a interpellée quand j'ai commencé à être formée, à avoir des formes, c'est que pendant presque un an, j'ai fui le regard de mon père, mais c'était horrible pour moi. Je voulais pas que mes formes transparaissent à travers mes vêtements. Je voulais disparaître. J'aurais pu faire des conneries tellement que c'était viscéral, c'était... envahissant comme sensation. Et plus récemment, il y a 3 ans, il a été hospitalisé et c'était assez grave. Je voyais un petit garçon dans son lit d'hôpital quand je suis arrivée. Et là, son premier réflexe, c'est de me dire qu'il était nu sous la chemise de nuit de l'hôpital. Et il a tout ouvert en disant « Regarde, je suis tout nu ». Et j'ai eu le temps de tourner la tête. Et en fait, c'est peu de temps après que j'ai... commencer à avoir une levée d'amnésie et des choses beaucoup plus précises. Je me suis dit, mais bon sang, là, c'est pas possible, c'est pas normal. Et j'étais déterminée à savoir vraiment ce qui s'était passé. d'autant plus que je venais de vivre une grande souffrance lors d'une rupture amoureuse, avec abandon, moi enceinte, l'homme est parti, et en plus il m'avait trahi. Et j'étais dans une phase de vie où j'étais déter pour me dire, mais bon sang, pourquoi mon rapport aux hommes est si catastrophique, même avec tout le travail que j'ai fait, d'être encore confrontée à autant de souffrances. Petit à petit, en continuant ce travail de thérapie, je suis remontée dans mon enfance. Donc par exemple, toute mon enfance, j'ai vu mon père toucher ma mère au niveau de sa poitrine. Voilà, c'était souvent sous le couvert de la rigolade. Bon, il y avait tout le temps des blagues grivoises à la maison en permanence. En fait, c'est comme si mon père avait tous les droits sur ma mère. Alors, ce qui était incroyable, maintenant je m'en rends compte, c'est que ma mère est très religieuse, plutôt pudique sur ses émotions, et qu'en fait, elle laissait faire, et voilà, quelle image ça donne du pouvoir de se faire respecter, de faire respecter ses limites, de se respecter soi. Bref. Avec ma sœur, alors je me rappelle plus si c'était toutes les deux, mais un des petits surnoms qu'on avait était le nom qu'on donne aux parties intimes des filles. Donc, j'arrive pas à le dire, mais voilà, c'était un de nos petits noms, c'était quand même le nom d'une, voilà, de la vulve de la petite fille. Il y a plusieurs fois où je me suis retrouvée seule avec mon père dans la rue ou... Il avait fait la remarque « Ah, bah, les gens doivent dire, regarde-le, celui-là, il est avec une jeunette. » Et ça m'avait toujours stupéfaite et ça avait généré du dégoût à l'intérieur de moi. Ça fait longtemps que j'ai fui la famille. Au début, je savais pas trop pourquoi, donc je me jugeais pour ça. Le fait de partir, ça m'a vraiment aidée à prendre du recul. Mais... c'est très loin des convenances de pas aller voir sa famille régulièrement, voire de plus trop donner de nouvelles. Là où j'en suis aujourd'hui dans mes relations familiales, c'est je ne veux plus voir mon père. Peut-être que ça évoluera, peut-être que je ressentirai l'élan de lui parler un jour parce que je lui en ai pas parlé et... ma sœur et ma mère non plus, de ce qu'on m'en a dit. J'en ai parlé à ma mère l'année dernière, le jour de mon anniversaire. Elle a posé la question. Vas-tu me dire pourquoi tu ne veux plus voir ton père ? Et pour elle, ça a été très difficile à entendre, parce qu'elle se sent responsable, je pense, de ne pas avoir protégé. C'est un chemin qui est très difficile d'oser voir... d'oser ressentir pour libérer, mais en même temps, je me suis jamais aussi sentie vivante. Malgré tout, c'est difficile d'avoir l'impression de plus avoir de famille.
Je m'appelle Jeanne et je vis en Isère. J'ai 45 ans. J'ai grandi dans les Hautes-Alpes, dans un milieu montagnard. Mes parents étaient amoureux de la nature et des montagnes. Dans une famille nombreuse, on était 5 enfants. Je qualifierais mon enfance de à la fois très libre et à la fois chaotique. Confuse, abandonnante. Je me souviens avoir passé des heures et des heures à jouer jusqu'à la nuit dehors, ou alors quand j'étais adolescente à traîner dans les bars, sans que jamais mes parents se soucient de savoir où j'étais, quoi, et ce que je faisais. Après, il nous faisait faire des activités, hein. Il nous amenait en montagne, tout ça, il nous faisait faire du ski et tout, mais il n'y avait pas la présence émotionnelle, en fait, dont ont besoin les enfants. C'est ça qui m'a cruellement manqué, quoi. Je me souviens, quand j'étais toute petite, je disais tout le temps la phrase « Elle est où, maman ?» Donc, en fait, ben voilà, je pense que je cherchais perpétuellement ma mère. Mon père, c'était encore plus distant. Ils vivaient leur vie, quoi. Alors moi, j'avais mes sœurs. Du coup, on fonctionnait un peu ensemble, en tribu fusionnelle, quoi. Et je pense que ça me permettait de quand même me sentir moins seule, quoi. Et puis aussi, on n'avait pas le droit de s'opposer avec ma mère, hein. C'était l'opposition interdite, toute opposition interdite. Le mot incestuel, je l'ai mis très très tard sur mon enfance et mon adolescence. Je l'ai mis il y a quelques années. Hein. Voilà, parce que j'ai mis 30 ans à sortir d'amnésie, hein, à ouvrir les yeux. Mon père, il faisait toujours des blagues graveleuses. C'était son truc, quoi. Et ma mère, elle nous parlait de ses amants, tout ça, quoi. Son amant en Afrique. Voilà. Mes parents étaient tout le temps nus. En vacances, en été, tout le temps nus. Et donc, nous aussi, on devait être nus. On fréquentait les plages naturistes, les camps naturistes. Voilà, il n'y avait jamais d'intimité au niveau des lieux, au niveau de la salle de bain, des toilettes. On se prenait la douche ensemble le matin avec ma sœur avant d'aller au lycée, ils rentraient, ils nous regardaient, quoi. Ma mère, elle, c'était pire. On avait un bidet dans la salle de bain, elle se faisait sa toilette intime devant nous. J'ai réalisé ça très tard, que c'était l'intrusion. Parce qu'en fait, quand on grandit dans cette atmosphère, pour nous, on croit que c'est normal, en fait, de voir tous les soirs le sexe de sa mère, que notre père nous regarde sous la douche quand on est le corps qui est en train de se former. Et bien sûr, je ressentais au fond de moi un mal-être. J'étais mal à l'aise. Voilà, j'étais mal à l'aise, j'aimais pas qu'on m'oblige à être nue. Une fois, mon père, il nous avait mises toutes deux dos, de la plus petite à la plus grande, nue, pour comparer nos fesses, et il avait pris une photo, quoi. Mais tout ça, c'était vraiment toujours tourné à la rigolade. Voilà, moi, je sentais au fond de moi qu'il y avait quelque chose qui allait pas, quoi. Je pense que j'étais pas rassurée. En présence de mon père, j'étais pas rassurée. Il avait des regards vraiment appuyés, quoi, sur mes parties intimes. Et de toute façon, le regard déplacé, insistant, sinueux, enfin, ça va déjà pas. C'est déjà, pour moi, c'est déjà pas normal. C'est déjà un abus. Mes parents, moi, je ne les vois plus depuis 2 ans. Et les rares fois où j'ai essayé d'évoquer le sujet, je me suis heurtée à un déni terrible. Avec mes frères et sœurs, on est très proches. Hein, et sur les 5, on a perdu une sœur qui s'est suicidée. Et sans doute, le climat incestuel n'y est pas pour rien. Avant de mettre le mot incestuel sur tout ça, j'essayais de me convaincre que c'était positif. Et du coup, je pense que je mettais plutôt les mots hippie, cool, famille différente, pas coincée. Voilà, j'essaie de transformer ça en positif, quoi. Je pense que j'avais pas conscience des conséquences graves que ça pouvait avoir, mais j'en ai vite fait les frais, en fait, dès mon adolescence. Le climat incestuel, ça prépare aux abus. C'est un terrain propice aux agressions sexuelles. On n'a aucune idée de comment s'y prendre pour dire non. On ne sait même pas qu'on a le droit de dire non et de poser des limites. Mettre le mot incestuel sur une grande partie de notre vie, c'est pas rien. Ça permet de clarifier un poids. Ça permet d'être alerte sur ces situations, notamment auprès de beaucoup de mes amis. En fait, je vois plein de climats incestuels et je le dis. Bon, après, ils en font ce qu'ils veulent, mais quand je vois une amie qui embrasse sa fille sur la bouche, je lui dis que c'est incestuel. En général, on réagit mal. Les gens sont un peu choqués, gênés. Soit, dans le meilleur des cas, ils répondent rien. Soit, ils me disent, oh, ils m'envoient balader, quoi. Faut pas voir ça partout. Ils minimisent, disons. Et mes petits, ben oui, alors là, j'achète tous les livres sur qu'est-ce que mon corps, le problème de l'inceste, etc. J'ai eu 4 enfants et je leur ai raconté mon histoire et je leur apprends à protéger leur intimité, bien évidemment. Je les forme autant que faire se peut. Par exemple, mon fils de 17 ans ferme à clé dans sa chambre. Et au début, ça m'agaçait. Et puis, en fait, un jour, j'ai eu un déclic. J'ai dit, ben, il a le droit de fermer à clé. Donc, voilà, c'est vraiment un travail des profondeurs. Faut vraiment aller chercher ce qui a été mal fait à l'intérieur de nous. Le débusquer et voilà, essayer de le réparer, quoi.
C'était un climat incestuel, un reportage de Clémence Alleza réalisé par Louise André. Merci à Émilie, à Elisabeth, à Jeanne pour leur confiance. Merci à cette auditrice qui nous avait écrit au départ et à toutes les personnes qui ont pris le temps d'échanger avec nous ainsi qu'aux associations SOS Inceste pour revivre et protéger l'enfant et à Lunaret pour son écoute attentive. L'attachée de production des Pieds sur Terre, c'est Valentin Rémy et notre stagiaire, c'est Adèle Toquet.
We're so